France Inter.
Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Prévu avant la crise agricole, mais largement revu et corrigé depuis, le projet de loi d'orientation de l'agriculture, enfin présenté ce matin en Conseil des ministres. La souveraineté alimentaire consacrée en tant que priorité stratégique, pas de quoi, vous l'entendrez, convaincre tous les syndicats.
Autre point de vue, à 6h20, je reçois le rapporteur de ce texte, Pascal Lavergne, député Renaissance et éleveur bovin.
Quand les questions au gouvernement deviennent des questions au seul Premier ministre, à partir de aujourd'hui et pour au moins un mois et demi, Gabriel Attal sera l'unique interlocuteur des parlementaires le mercredi après-midi, à ses risques et périls. Au sommaire aussi, des soldats plus jeunes en Ukraine, du cannabis dans un Kinder Surprise, une petite fille à l'hôpital, et du foot, l'OL premier qualifié pour la finale de la Coupe de France.
Et voici donc enfin le projet de loi d'orientation agricole.
Oui, ce matin, au Conseil des ministres, après plusieurs reports, modifications, ajouts jusqu'à la dernière minute, pour tenir compte des multiples revendications des agriculteurs. On trouve donc les mesures prévues avant la crise pour faciliter la transmission d'exploitation entre générations. Mais depuis les blocages routiers de fin janvier, le texte a considérablement grossi avec des simplifications de réglementation sur les haies, par exemple, l'accélération des projets d'irrigation et surtout, dès l'article 1er, l'inscription de la souveraineté alimentaire comme priorité stratégique, intérêt général majeur de la nation. C'était une revendication de la FNSEA. Mais Mathilde Dehimy, les deux autres principaux syndicats restent, eux, clairement sur leur faim.
La notion de souveraineté alimentaire vient des luttes altermondialistes. Mais le gouvernement, dans les pas de la FNSEA, n'en fait pas du tout la même lecture, dénonce agacée Laurence Marandola de la Confédération Paysanne.
Ça veut dire qu'on accepte que les terres agricoles permettent de la production de biomasse destinée à faire des agrocarburants et à poser des panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles. Et du coup, c'est des mesures qui profitent à la production d'énergie, à l'exportation et sûrement pas à la souveraineté alimentaire produite partout en France des aliments pour nos concitoyens.
Le texte prévoit un guichet de démarche unique pour les nouveaux, mieux faire connaître aussi les métiers aux plus jeunes. Il passe surtout à côté de l'essentiel, regrettent ces syndicats, revoir en profondeur les règles du foncier et du revenu. Véronique Le Floch de la coordination rurale.
Pour que l'agriculture tourne demain, il faut des revenus. Donc là-dessus, il fallait encadrer tous les intervenants et impliquer les industriels à qui on vend nos produits. C'est un premier manquant. L'eau, on en parle un petit peu, mais pas assez. Même si par rapport au recours, tout ça, c'est simplifié, allégé, c'est un bon point. Mais on est loin du compte.
Le projet de loi prévoit une réglementation unique sur les haies. Les sujets plus sensibles des retraites et des pesticides sont renvoyés à d'autres textes.
Et l'exécutif espère une adoption définitive par le Parlement d'ici à cet été. À l'Assemblée, justement, le Premier ministre seul pendant trois quarts d'heure face aux députés. Gabriel Attal expérimente à partir de cet après-midi une nouvelle formule des questions au gouvernement. Pendant cinq semaines, au moins, il sera chaque mercredi l'unique membre du gouvernement justement à répondre au parlementaires. Sur tous les sujets, les autres ministres ne prendront pas le micro. Voilà de quoi personnifier au maximum la fonction, Simon Le Baron, ce qui n'est pas sans risque politique.
C'est une stratégie à double tranchant, prévient un député LR. Car si les actes ne suivent pas, ce sont ces mots qui lui reviendront en boomerang. Gabriel Attal et ses experts en communication ne laissent rien au hasard. Si le Premier ministre utilise autant le pronom « je » plus de 140 fois dans sa déclaration de politique générale, s'il cherche à s'affirmer en tant que chef, mon ministre de l'économie, dit-il en parlant de Bruno Le Maire, c'est pour imprimer sa marque le plus vite possible, quelle que soit la durée de son bail à Matignon. Tout cela correspond au code moderne, très auto-centré, façon influenceur, observe une députée macroniste, mais sans résultat. L'excès de com n'est qu'un aveu d'impuissance. L'avertissement vient donc de son camp, comme des oppositions. Le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, va encore plus loin dans la critique. Il y a dans la personnification du pouvoir, une forme de simplification politique qui finit par abîmer la démocratie. Le Premier ministre est prévenu, ses séances de questions-réponses face aux députés seront musclées et c'est exactement ce qu'il veut.
Pas de changement en revanche pour la séance de questions du mardi, là tous les ministres continueront de répondre aux députés. Cet après-midi, toujours devant l'Assemblée, eux vont manifester, plusieurs centaines de salariés du groupe SEB attendu à Paris, avec le soutien très clair de leur direction. C'est même elle qui affrète les cas et donne donne un jour de congé. Le syndicat Force Ouvrière est aussi de la partie, avec un objectif commun, s'opposer à une proposition de loi écologiste qui vise à interdire les produits contenant des PFAS, ces polluants éternels. Seb est concerné via ses poêles Tefal et parle de 3000 emplois menacés dans ses usines si ce texte passe. Plus haut que la précédente crue majeure de 2013, le niveau de la rivière Serein a atteint son pic cette nuit à Chablis, à plus de 2,40 m. Le département de l'Yonne est toujours en vigilance rouge. Ce matin, l'onde de crue s'est déplacée vers le nord du département. Dans le célèbre village viticole, on a dû évacuer des touristes hier bloqués au milieu d'un vignoble. En revanche, en amont, la décrue a bien commencé.
France Inter, 6h05, l'info de la nuit à l'étranger, c'est ce séisme au large de Taïwan.
Ouais, épicentre situé en pleine mer, magnitude supérieure à 7, c'est le plus gros tremblement de terre vécu à Taïwan depuis 25 ans. À ce stade, les autorités signalent l'effondrement de 2 immeubles, plus d'une cinquantaine de blessés. Une alerte au tsunami a été déclenchée dans toute la région, jusqu'aux Philippines, avant finalement d'être levée. 100 milliards d'euros sur 5 ans pour aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, c'est ce que va proposer l'OTAN à ses 32 pays membres, réunis aujourd'hui à Bruxelles. Tandis qu'à Kiev, les autorités tentent de trouver la parade aux difficultés de recrutement dans l'armée. Le président Zelensky vient donc de promulguer la loi qui abaisse l'âge de la mobilisation militaire de 27 à 25 ans. Les explications sur place, signé Agathe Mahuet.
C'est une question qui fait débat depuis des mois dans le pays. Comment recruter davantage de soldats pour tenir face à la pression de l'armée russe, numériquement supérieure, et pour relever les troupes épuisées mobilisées depuis 2 ans? Volodymyr Zelensky a longtemps retardé cette décision d'élargir la conscription, mesure impopulaire auprès de son électorat jeune notamment. Il valide finalement ce projet de loi voté le mois dernier à la Rada, le Parlement ukrainien. Tous les jeunes hommes pourront donc être mobilisés dès 25 ans. Pour mieux gérer ce recrutement, le président Zelensky promulgue également la loi qui prévoit de créer un registre militaire en ligne. Mais l'enrôlement de ces nouveaux effectifs pourrait prendre encore des mois, alors que l'âge moyen est actuellement de 43 ans dans l'armée ukrainienne, ce qui en fait l'une des plus vieilles au monde.
Israël fait profil bas après la mort de 7 humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen dans une frappe sur Gaza. C'est une grave erreur qui n'aurait pas dû se produire, reconnaît l'armée israélienne ce matin. Hier soir, c'est le président Isaac Herzog qui a présenté ses excuses sincères face au concert d'indignations internationales. L'Australie, qui a perdu une ressortissante dans ce drame, se dit très en colère. À Washington, Joe Biden estime qu'Israël ne protège pas assez les volontaires venant en aide aux Palestiniens. Au Sénégal, le nouveau président Faye nomme son mentor Premier ministre. Ousmane Sonko prend la tête du nouveau gouvernement. Il avait dans un premier temps voulu se présenter lui-même à la présidentielle avant que sa candidature ne soit invalidée.
En France, une fillette de 2 ans à l'hôpital après avoir consommé du cannabis.
Bien malgré elle, évidemment. C'était samedi dernier, au domicile familial, l'enfant est tombé sur de la résine de cannabis dans un Kinder Surprise. Ses parents, Marion Aquilina, reconnaissent de la négligence.
La petite fille âgée de 2 ans était dans le garage quand elle a trouvé un morceau de résine de cannabis dans un Kinder Surprise, plus précisément dans la partie jaune, en plastique. Elle l'a pris, l'a mastiqué comme un chewing-gum, mais elle n'a rien avalé, c'est ce que sa mère a raconté. Dès qu'elle s'est rendue compte que sa fille mâchouillait ce morceau de cannabis, elle l'a retiré, lui a ensuite lavé la bouche, rincé abondamment. Ça s'est passé dans une maison près de Pau, dans un petit village des environs de Morlas. C'était samedi soir. L'enfant s'est couché, tout semblait aller bien. Mais le lendemain matin, elle ne s'est pas réveillée. Ses parents ont alors prévenu les secours. La petite a été hospitalisée. Elle était dans un coma calme, a précisé le procureur de Pau, qui ajoute qu'aujourd'hui, elle va mieux. Son état est stable. Les parents ont été entendus par les enquêteurs. Un père et une mère catastrophés qui ne consomment du cannabis qu'occasionnellement, selon les premiers éléments de l'enquête.
En précision, France Bleu, Béarn Bigorre.
L'Olympique lyonnais, premier qualifié pour la finale de la Coupe de France de football.
Et l'OL se prend à rêver de décrocher ce trophée pour la première fois depuis une douzaine d'années. Billet remporté hier grâce à une victoire nette 3-0 à domicile contre Valenciennes. Un doublé d'Alexandre Lacazette. Lacazette, héros des supporters qui ont d'ailleurs envahi le terrain en fin de match.
Beaucoup de joie, de fierté. Et ça sent que ça fait un moment qu'ils attendaient que ça. La dernière fois, Lyon est allé en finale, mais il y a eu le Covid, donc ils n'ont pas pu célébrer avec les joueurs. Et je pense aujourd'hui, ils profitent au max de tout ce qu'ils avaient pu ressentir ces derniers mois, ces dernières années, la frustration. Et aujourd'hui, de voir, comme j'ai dit, cette communion entre le peuple, les supporters et les joueurs, c'est juste trop beau. C'est ma première demi-finale à Lyon. On en fait rarement et tant mieux, ça s'est bien passé pour nous. Le coach a su remettre notre tête à l'endroit. Il a su avoir les mots justes au bon moment et le travail qu'on fait au quotidien, ça paye. Donc maintenant, on a juste envie de finir le plus haut possible au classement pour bien préparer cette finale.
Alexandre Lacazette au micro de Christophe Vincent. Alors qui pour affronter l'OL ce soir? L'autre demi-finale opposera le PSG à Rennes à partir de 21h10.
Alexis Morel. Et maintenant, une autre coupe dans l'esprit sport, la Coupe d'Allemagne. Bonjour Cédric Guillon.
Bonjour Mathilde.
Il y a beaucoup de surprises dans cette compétition cette année.
Oui, c'est vrai que c'est assez fou. Hein. Sur les quatre demi-finalistes, il n'y avait qu'un seul représentant de l'élite, le Bayer Leverkusen, qui est la meilleure équipe d'Allemagne hein, cette saison. Ils survolent le championnat, ils sont encore invaincus. Sinon, on retrouvait deux clubs de deuxième division, Kaiserslautern et Düsseldorf, et puis le petit club de Détroit, de Sarrebruck, dont le parcours a pris fin hier, une défaite de 0 contre Kaiserslautern. Mais les fans du foot allemand ont vibré, Mathilde, avec le parcours de ce club qui est situé dans la Sarre, tout près de la frontière française.
Oui, elle est à 70 km de Metz. Hein.
Oui, exactement. Le club a réalisé un parcours de dingue en éliminant notamment trois clubs de Bundesliga, c'est-à-dire de première division, le Bayern Munich, l'Eintracht Francfort et puis le Borussia Mönchengladbach. Déjà en 2020, ce club de Sarrebruck, qui était alors en quatrième division, avait réussi à rejoindre les demi-finales de la compétition. Et puisqu'on évoque un petit peu l'histoire de ce club, Mathilde, notez que Sarrebruck a participé au championnat de France, je dis bien de
France,
de deuxième division lors de la saison 48-49.
Comment ça se fait? Pourquoi?
Parce qu'après la guerre, en fait, en 1947, le territoire de la Sarre est devenu un État indépendant. Je vois Claude Askolovitch qui me regarde avec des grands yeux. Placé sous la tutelle française et en juillet 48, la Fédération Sarroise de Football a été créée et dépendait alors de la Fédération Française de Football. Sarrebruck avait donc remplacé Angoulême au pied levé pour la saison 48-49. Mais comme il était considéré comme un invité, ses points n'avaient pas compté.
Improbable hein, comme histoire. Merci beaucoup Cédric Guillou, effectivement. Claude Askolovitch nous a rejoint pour la revue de presse. Allez, c'est dans 2-3 minutes Claude, c'est pas tout de suite. Il est 6h12.